au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les 16 ans, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Si vous aimez le chant lyrique, l'opéra ou la musique classique, vous serez ravis aujourd'hui car pour notre invité, c'est l'univers dans lequel il évolue. Ce chanteur a débuté sa formation au sein du Centre de musique baroque de Versailles, où il fait ses premiers pas en tant que soliste. Il intègre par la suite le Conservatoire national supérieur de Paris, avant de venir étudier à l'Université de Montréal. Au gré du temps, il obtient une maîtrise et il y poursuit un doctorat en interprétation, soutenu par de nombreuses bourses d'études. Quel plaisir d'accueillir le ténor Emmanuel Hassler. Bonjour.
Et bonjour, bonjour.
Et vous avez fait du chemin, vous, depuis la France?
Oh là oui, ben ça fait sept ans que je suis ici, moi.
Oui, vous êtes né à Limoges.
Oui.
Et vous avez grandi dans un milieu campagnard. Vos deux parents, heureusement, étaient musiciens. Votre mère chanteuse et votre père?
Clapsiniste et chef d'orchestre. Clapsiniste, il a un petit peu laissé de côté au fur et à mesure que son activité de chef se développait. Voilà, mais sa formation initiale c'est clapsiniste. Voilà. Il a été chef de chœur, chef d'orchestre.
Et vous avez une petite sœur, on peut dire qu'elle est grande maintenant, qui a pour nom oui. Floriane et qui aussi fait carrière.
Et oui, c'est une chanteuse, c'est une merveilleuse mezzo-soprano, Floriane.
Votre enfance, si je comprends bien, a été une enfance heureuse, une enfance dans laquelle vous avez baigné constamment dans l'univers musical.
Oui, bah on a été, là c'est vraiment... Comme je dis souvent, moi, j'ai pas beaucoup de mérite. Enfin, ça demande du travail quand même. Mais comme on dit dans ma famille, on est tombé dans la marmite comme Obélix. C'est-à-dire que vraiment tous les jours, il y avait de la musique à la maison, que ça soit des répétitions, que ça soit à la radio, que ça soit des disques, que ça soit dans la voiture, on chantait en famille, on écoutait beaucoup de musique. Donc oui, j'ai vraiment baigné dans la musique.
Et même à l'école. Oui, et même à l'école, parce que il y a une anecdote que j'aimerais que vous nous racontiez. Quand vous étiez à la petite école, vous aviez une institutrice qui aimait bien vous torturer par un surnom.
Oui, il y en avait deux. Il y avait le juge de paix et puis il y avait aussi le professeur Tournesol, parce que j'étais quelqu'un de vraiment dans la lune. Donc, c'est ça, c'est la première institutrice de petite section de maternelle, oui, qui m'avait surnommé professeur Tournesol et c'est resté... Ma mère, elle m'appelle comme ça encore de temps en temps.
Vous aviez un penchant pour les sciences?
Pour les sciences, alors, ça m'intéressait et j'étais vraiment fasciné par l'astronomie. Mais plus tard, à l'adolescence, je me suis révélé pas très très bon en sciences et en particulier en maths. Et j'étais plus performant et intéressé par les matières littéraires et puis ce qu'on appelait autrefois les humanités, enfin l'histoire, oui. La géographie, tout ça. Mais la science m'intéressait aussi, petit, et l'astronomie en particulier, ça me faisait vraiment triper.
On peut comprendre que vous vous réfugiez aussi beaucoup dans la musique avec ce comportement rêveur, peut-être un peu refermé sur lui-même, et où la oui. musique venait combler peut-être... une certaine nostalgie qui pouvait vous habiter?
Oui, la musique, ça a toujours été un grand refuge. Ça dépend des concepts, des contextes. Je peux être parfois très sociable, très extraverti. Puis il y a des grands moments où j'ai besoin de solitude, où je ne suis pas à l'aise dans les groupes. Et oui, la musique, ça a énormément participé à ça. C'est-à-dire que petit, et puis ça ne change pas. D'ailleurs, j'ai de la musique non-stop dans la tête. C'est vraiment... Oui, et puis ça a été un refuge, et en particulier plus tard, quand je me sentais très très isolé, notamment en France, la période du collège qui va disons de 11 à 14 ans à la louche, où j'étais pas très intégré, pas très confortable avec moi-même, avec les autres, et la musique ça a été vraiment, c'est salvateur même, je dirais que c'est, comme certains ont des livres pour se réfugier, ou des films, moi c'est la musique, ça veut pas dire que je ne lis pas ou que je n'écoute pas de film, mais la musique c'est très très important.
Vous allez nous faire découvrir tout au cours de la prochaine heure de très belles pièces musicales. Si on amorçait déjà avec une pièce dans laquelle vous étiez choriste avec le jeune chœur du Limousin, Ça vous dit quelque chose?
Oh oui, c'est Lobenherrn de Bach. C'est de Jean-Sébastien Bach, parce que c'est une grande famille de musiciens, les Bach. Mais voilà, c'est une pièce qu'on a enregistrée, je pense, ça date d'après 2010. Et voilà, c'est un. Mon père et ma mère avaient un ensemble de principalement vocal en Limousin, avec plusieurs structures. Il y avait un chœur amateur, il y avait un chœur de professionnels aguerris, et puis il y avait ce jeune chœur de Limousin qui était une espèce de d'étape intermédiaire entre les jeunes qui étaient au conservatoire, notamment des ados, et puis les jeunes adultes qui commençaient à faire leurs premières armes et à se former, à être rémunérés. Et ça donne voilà ce concert qui s'appelait Bach en famille, où justement on faisait un peu la on retraçait un peu les différentes générations de Bach et leur style à chacun de ces personnages. Et voilà, et ça c'est une pièce centrale de Jean-Sébastien, évidemment, qui est un monument, qui est jubilatoire et qui est vraiment un des très très beaux motets de Bach et une des très très belles pièces.
Oh.
On vient d'entendre le jeune chœur du Limousin, l'ensemble instrumental et vocal Chronochromie, sous la direction de Jean-Michel Hassler. Ça, c'est parent avec vous.
Oui, oui, c'est mon père. Voilà, mon père était à la direction et ma mère faisait la, ma mère, Annette Petit, faisait la formation vocale. Elle préparait, elle a chanté aussi dans le chœur ou en soliste, et puis elle préparait la technique de tout ce petit monde que mon père dirigeait.
Alors, on va rester en famille, si vous voulez bien, Emmanuel, parce que vous nous avez dit que votre petite sœur, devenue grande, était une très, très bonne chanteuse. En fait, c'est une mezzo-soprano. On va l'entendre ici avec l'Orchestre symphonique de La Monnaie, sous la direction d'Alain Altiloglu. Et que va-t-elle nous interpréter?
Alors, c'est un extrait de Werther de Massenet, va, laisse couler mes larmes. On est à l'acte 3 et la pauvre Charlotte qui est partagée entre son amour, disons, de devoir pour Albert et puis un amour furtif qu'il y a eu à un moment pour Werther, qui est très malheureux de ne pas avoir pu aller plus loin avec Charlotte. Charlotte nous expose ici toute sa mélancolie, et c'est un air d'une très très grande beauté. Voilà, qui a été enregistré pendant la finale du concours Reine Elisabeth à Bruxelles, qui est un très 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 grand concours de chant, pas seulement d'ailleurs, c'est triennal avec violon et piano, je crois. Et voilà, et ma sœur a eu le 4e prix, ce qui est remarquable. Voilà, et c'était un de ses airs de finale.
Alors, on vient d'entendre la mezzo-soprano Floriane Hassler, qui a aussi remporté les premiers prix des concours internationaux de Froville, spécialisée en musique baroque, et de Canaries en 2022. Elle appartient, peut-on dire, à la relève prometteuse en chant lyrique, et elle est aussi la sœur de notre invité, Emmanuel Hassler. Décidément, la famille, c'est important pour les Hassler.
Ah bah c'est oui on a beaucoup de fun. Alors évidemment ça se chicane quand on fait de la musique en famille, mais on a pris aussi depuis le temps, on s'est assagi, je dirais, avec le temps, mais c'est avant tout beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes et puis des aventures humaines. Oui, Floriane est,
si je parle de là, oui.
Oui, je dirais que Floriane est en train de se lancer une carrière absolument remarquable. Là, elle a chanté Général Tola de Rossini à Toulouse la saison dernière. Là, elle s'en va chanter Niklaus mon Dieu, dans les contes d'Hoffmann à Strasbourg. Elle est en ce moment même, elle est à Naples. Voilà, donc c'est voilà, c'est vraiment un très 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 beau parcours.
Alors, c'est peu banal quand même. Effectivement, on peut dire qu'elle elle fait non plus partie de la relève, mais elle est en train de s'ancrer dans ce monde des grandes du chant lyrique. Quand je parlais de la famille, c'est qu'il y a eu aussi une présence importante de vos grands-parents. Je pense à votre grand-mère maternelle qui était un personnage en soi, n'est-ce pas?
Oh oui, c'était un personnage de bande dessinée, ma grand-mère. C'était un tempérament, comme on dit, explosif. Elle était moitié italienne, peut-être que ceci explique cela, à la fois son amour de la musique et puis son mari, mon grand-père, que malheureusement je n'ai pas connu de ce côté-là, était un fervent admirateur de Wagner, et elle était plus trempée dans la musique italienne, et ça fait un mélange explosif.
Et tous les deux ont connu... Tous les deux ont connu Francis Poulenc.
Oui, ils ont connu Francis Poulenc, qui, alors ils n'étaient pas intimes, mais ils ont fréquenté. En fait, Francis Poulenc venait de temps en temps dans leur ville, Brive-la-Gaillarde, parce qu'il était très ami avec une pianiste qui habitait là-bas, qui s'appelait Marthe Bossredon, qu'on retrouve un petit peu dans la correspondance de Poulenc. Et à chaque fois qu'il rendait visite à cette personne, qui donnait cours de piano, je crois, peut-être, si ce n'est à ma mère, peut-être à une maison quétante, parce que ma mère était assez petite, elle était très petite, donc, Poulenc était là. Et voilà, donc ils ont eu l'occasion d'échanger avec Francis Poulenc sur la musique, sur le patrimoine de la région. C'était quelqu'un d'extrêmement curieux, visiblement. C'était assez intéressant pour eux. Enfin, ma grand-mère en parlait avec beaucoup de bonheur. C'était un personnage vraiment intéressant, très, très unique, Poulenc.
Là, on va faire un saut dans l'univers de Gustav Mahler. Vous nous proposez un extrait, le cinquième mouvement, je crois, de la symphonie numéro 2, qu'on qualifie de symphonie résurrection, c'est exact?
Oui, c'est exact. Alors, c'est un court extrait de ce dernier mouvement qui dure en tout une demi-heure, donc on n'allait pas tout passer ici, mais c'est un extrait qui représente totalement la résurrection, même si la conclusion finale... Je réserve. Écoutez, si vous connaissez pas la symphonie Résurrection encore, tant mieux. Précipitez-vous, mettez-vous, installez-vous confortablement. C'est long, mais ça vaut le coup. C'est un parcours initiatique qui part d'une très grande douleur, tristesse, vraiment d'une peine, jusqu'à une apothéose, voilà, ou une confiance absolue de Mahler en le. Si ce n'est en la résurrection, je pense qu'il était croyant, mais ça peut quelque part se transposer dans une espèce de confiance en la vie, puis en l'expansion de la vie. C'est universel, et ce moment-là, moi, me rend fou, parce que c'est vraiment une espèce de, ça commence vraiment, vous allez entendre par des harmonies sombres, et tout d'un coup, Mahler fait quelque chose qu'on n'avait jamais entendu avant en termes de développement harmonique, très rarement, et ça va déboucher sur une très grande explosion qui va nous rappeler 90% de la musique de film d'Hollywood qu'on a entendu ces 50 dernières années. Donc c'est absolument fondamental, Mahler, et c'est cosmique, c'est extraordinaire.
un extrait trop bref, hélas, de la symphonie numéro 2 en do mineur, dite Résurrection, cinquième mouvement, interprété ici par l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Simon Rattle. Et c'était proposé par notre invité du jour, Emmanuel Hassler, ténor. Comment devient-on ténor, Emmanuel?
De la sueur et des larmes. Non, je plaisante, mais moi, ça a été un peu particulier parce que, mais comme un certain nombre de ténors, je dois dire, j'ai commencé comme baryton. Parce que quand on est jeune adulte, adolescent et jeune adulte, bien le larynx n'est pas tout à fait encore développé à la bonne place. Le corps continue à faire son chemin. D'ailleurs, il continue à faire son chemin toute sa vie. Notre voix évolue toute notre vie, donc c'est pas un preuve d'immaturité en soi, mais c'est simplement qu'on n'est pas sûr de déterminer et que c'était plus prudent, tout simplement, de me faire chanter en baryton. D'autant plus que voilà, je suis plutôt grand et costaud, on va dire comme euphémisme, c'est disons que je suis plutôt Obélix que Astérix. Et voilà, et puis parfois ça peut donner un peu des profils de baryton basse, mais pas du tout dans ce cas-là. J'avais des graves assez faibles et des facilités dans les aigus. Il y a un moment donné, il y a plusieurs professeurs qui se sont dit, c'est que pour être ténor. Et voilà. Donc, comment on dit un ténor? Ça prend du temps parce que c'est la voix, entre guillemets, la moins naturelle, la plus trafiquée. C'est-à-dire que même le ténor tel qu'on le connaît, il date du début du 19e siècle. Parce qu'il y a un moment, je vais passer les détails techniques, mais ils ont changé de registre. Les aigus n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on entend maintenant dans le répertoire lyrique romantique. Parce que si on va dans le baroque, c'est sur d'autres types de discussions, quoique. Je me perds avec tout ça, c'est typique de moi. Et donc voilà, donc ça a mis des années à essayer de trouver cette tessiture. D'ailleurs, c'est toujours demander à un ténor de vous parler des aigus et de comment il a fait son contre-do, son si bémol. Vous allez entendre parler pendant des heures. Et voilà, donc ça a été plusieurs années où voilà, j'étais pas très très opérationnel. Donc j'avais une activité de chef de chœur et puis j'étais aux études. Voilà, mais voilà, ça a pris du temps. Et ça, voilà, je suis heureux de l'avoir pris, mais c'est...
Alors, on va découvrir votre tessiture dans le prochain extrait, un extrait d'une pièce de Jules Massenet, L'Exilé, et on va porter attention à cette voix merveilleuse qui est la vôtre. Et tout ce Alors, un mot sur le pianiste Olivier Godin qui accompagnait notre invité, Emmanuel Asselin, récemment nommé directeur artistique de la Fondation Art Musica et de la Salle Bourgie à Montréal. Le pianiste, organiste et chef d'orchestre Olivier Godin mène une brillante carrière de concertiste, de chambriste et de pédagogue au Canada et à l'étranger. Nommé professeur au Conservatoire de musique de Montréal à l'âge de 25 ans, Olivier Godin a assumé la responsabilité de l'atelier d'opéra de cette institution durant près de 15 ans tout en y enseignant pendant 20 ans. Il a cofondé en 2017 l'Académie vocale internationale de la Chine avec son collègue Richard Turp. Quand on est accompagné par un tel maestro, j'imagine que la tessiture de la voix se place plus facilement.
Ah bah, première chose, on est humble et on écoute ce qu'il a à dire sur ce qu'on est en train de travailler. Surtout que c'est une belle aventure. On m'a appelé un peu en dernière minute pour compléter cette intégrale Massenet dont est extrait cette mélodie, voilà. Et voilà, alors c'est vraiment c'est une intégrale avec des sommités, Karina Gauvin, Marine Paul Lemieux, Jean-François sur la pointe, j'en passe, voilà, on est nombreux. Et puis moi, j'ai quelques mélodies là-dedans, dont cet exilé où il travaillait avec cette équipe-là. D'Atma, du Festival Classica et puis Olivier Godin, c'est un très, très, très beau et très doux souvenir, parce que ça s'est fait relativement vite, et puis tout le monde m'a fait immensément confiance, et on a travaillé avec beaucoup de douceur et beaucoup de précision. C'est un très, très beau souvenir.
Et pour vous avoir vu personnellement sur scène, non seulement la voix est très belle, mais vous avez une telle présence. Vous avez beaucoup de prestance d'abord, mais vous avez une telle présence que on ne peut pas faire autrement que de tendre l'oreille et de se laisser bercer par les notes qui semblent sortir facilement de ce coffre de puissance qu'est votre voix.
Ben merci. Ben c'est tout l'enjeu de travailler différents répertoires, c'est que il y a des fois où il faut être à pleine voix. On est toujours à pleine voix. Les chanteurs m'entendraient dire ça et diraient oh là là oui, mais il faut toujours chanter à pleine voix. C'est vrai. Et par exemple dans la mélodie de Massenet, là je suis quelque chose qui est beaucoup plus en demi-teinte que dans d'autres contextes, dans du grand oratorio ou du grand opéra où je vais utiliser tout l'ensemble de ma tessiture, mais ça fait partie de la beauté de la chose. Merci.
On va passer, vous dites qu'il faut varier aussi le répertoire. Vous aimez, sans aucun doute, aussi la musique populaire.
Bien sûr.
Alors, on va faire une incursion dans la musique populaire. Une pièce, une très belle pièce d'Enrico Macias, interprétée ici par Mike Allison. Elle a pour titre « Zingarella ».
Zingarella, Zingarella. Les pieds nus dans cette hacienda. Bohémienne, souveraine, ici chacun subit ta loi. Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Madone avant les Madonna. Étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi. Zingarella, Zingarella. Zingarella romantica. Quand tu danses en ouvrant les bras, tous les garçons Zingarella, Zingarella. La musique est faite pour toi. Magicienne, musicienne, quand je l'écoute dans ta voix. Zingarella, Zingarella.
C'est très rythmé comme musique, Emmanuel.
Bah voilà, ça je découvre un petit peu et j'avoue que c'est extrêmement plaisant.
Ben oui.
On a besoin de ça aussi, on n'est pas obligé de s'alanguir tout le temps sur, sur nos affres sentimentaux. Voilà, il y a de tout.
C'est vrai, on a besoin de cela aussi pour égayer nos journées. On parlait de grandes voix. Ici au Québec, nous avons connu un grand ténor. Il avait pour nom Richard Véraud. Richard Véraud nous a laissé, heureusement, des enregistrements. Richard Véraud, dont la carrière s'est malheureusement mal terminée, c'est une grande voix disparue. Ce grand ténor québécois est disparu le 6 juillet 2005 à Québec. Il avait connu une carrière internationale qui allait d'envergure en envergure. Il devait chanter au Covent Garden pour plusieurs années, carrière qui avait été amorcée en 1951 et qui malheureusement, Emmanuel, fut interrompue à la suite d'une intervention chirurgicale aux amygdales. J'imagine que ça, c'est la hantise de tous les ténors, que d'avoir des problèmes
Oui, c'est la hantise de tout le monde. Alors, les amygdales, normalement, j'espère que maintenant, c'est parce que je connais des chanteurs qui se sont enlevés les amygdales et Dieu merci, peuvent chanter. Mais alors, j'ignorais ce détail sur Richard Véraud, qui a été un immense faust dans la damnation
Oui.
faust de Berlioz. Et mais oui, c'est on est
Alors,
alors.
oui, on va l'entendre, si vous voulez bien, dans un extrait d'une pièce napolitaine qui a pour titre je ne sais pas si je le prononce bien en italien, Dicitancello Vui. C'est interprété par l'orchestre de Turin sous la direction d'André Grassi. Voici cette belle voix, Richard Véraud. Oui, vous pouvez me reprendre, Emmanuel, sur mon italien, mais
Oh non, pas.
mais il faut avouer, Emmanuel Asselin, notre invité aujourd'hui, qui est ténor, que Richard Véraud était vraiment une voix exceptionnelle.
Oui, remarquable, remarquable. C'est partie des gens On a besoin d'écouter de temps en temps pour se remettre, pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit chez moi.
Oui, heureusement, il nous reste, comme je le disais précédemment, des enregistrements comme celui que, de cette chanson du répertoire napolitain qu'on vient d'entendre. Et c'est grâce à ces enregistrements qu'on peut avoir encore la mémoire de cette carrière qui, hélas, s'est interrompue brutalement. Dites-moi, vous avez, je pense, évolué dans votre jeunesse dans un milieu campagnard, très calme, je dirais même bucolique. Est-ce que ça peut influencer le développement d'un enfant vers une carrière qui amène quand même à la nostalgie? Quand on chante les grands compositeurs allemands, italiens ou autres, il y a parfois beaucoup de nostalgie dans ces chants.
Ah bah la nostalgie, c'est un des piliers, en tout cas en particulier de la musique romantique. Et est-ce que la vie à la campagne influence ce qu'on fait? Oui, j'ai envie de dire oui. Alors, pas directement, parce que quand on chante, on pense surtout à chanter. C'est ouais. Ce qui fait qu'on est parfois. Alors, ça dépend vraiment des cas de figure et des personnes, mais on est parfois vraiment concentré sur des aspects. Là, je viens de chanter là quand on enregistre l'émission La Vie Parisienne. On est à la fois pleinement dans les émotions des personnages, mais aussi dans la technique. Mais c'est sûr que, en tout cas, en ce qui me concerne, la vie à la campagne et l'environnement direct dans lequel j'ai grandi est quelque chose qui manque. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je vais invoquer pour teinter l'œuvre que je vais chanter. En revanche, c'est quelque chose qui me ground. C'est vraiment ce qui me revient régulièrement. Quels sont les moments heureux? Quelles sont les belles sensations? Quels sont les référents? Les grands paysages, les petits bosquets, les bois, les prés, les animaux qu'il y avait autour, la vieille pierre. Voilà, les petites églises un peu délaissées, super, avec beaucoup de caractère. Voilà, ce sont des choses qui restent profondément en fait.
Quand on vit dans un hameau vallonné comme c'était le cas lorsque vous étiez jeune, on a le sentiment probablement d'évoluer dans un environnement sécuritaire, libre, qui laisse aller l'imagination dans tous les sens.
Oh oui, je m'en suis fait des films, surtout que j'étais un très grand fan de fantasy, de science-fiction, de voilà. Et alors bon, quand on a ça à notre disposition et que bon, dans le cas de mes parents, ils nous laissaient, il n'y avait pas vraiment de danger immédiat, on était assez responsabilisés, autonomes, et on allait facilement se promener, etc. Et puis moi, je pouvais passer des heures à me promener, m'imaginer que j'étais je sais pas, un sorcier, un Jedi, je sais pas quoi, un explorateur, hein. Voilà. Et oui, c'est un très grand terrain de jeu. On a besoin de ça. On a besoin de ça. J'espère revivre à la campagne un jour. Vraiment.
Alors, on va se faire plaisir, vous et moi, ainsi que, comment dire, nous offrons ce cadeau à l'auditoire. Une autre grande voix, une voix majestueuse. Peut-être pas au niveau de la tessiture, mais au niveau du sentiment qui passe à travers sa voix. C'est la voix de Maria Callas. Encore une fois, les enregistrements, Emmanuel, sont là pour nous rappeler ces gens d'importance. On va écouter Maria Callas dans un extrait de Orphée et Eurydice, « J'ai perdu mon Eurydice » de Gluck.
Rien n'égale mon amour.
Emmanuel Hassler, ténor et notre invité, que dire de cette voix, celle de Maria Callas?
Ah, Maria Callas, c'est l'opéra. C'est tout simplement l'opéra. On en pense ce qu'on veut parce que c'est quelqu'un qui a eu une carrière et une vie très tumultueuse, pas toujours très heureuse sur le plan personnel. C'est l'opéra. Il y a une anecdote qui est extraordinaire sur Callas. C'est un chef qui était interviewé et qui, je crois, c'était à Buenos Aires. Elle craquait toujours à la fin de Traviata une note, etc. Et puis il disait, mais voyons, madame, vous pouvez le faire plus fort, vous le connecterez mieux. Et puis elle dit, mais maestro, je suis en train de mourir à ce moment-là, on s'en fout. Et c'est complètement Maria Callas, c'est un exemple.
Oui.
Alors oui, on peut pas faire ça en audition, par exemple. Si on auditionne avec cet argument-là, ils vont nous dire, oui, vous êtes gentil, mais non, ça va bien. Mais c'est un état d'esprit et c'est extraordinaire. Et puis, j'ai une pensée avec... j'ai perdu mon Eurydice, ça résonne, parce que j'ai personne de ma famille qui a perdu quelqu'un récemment. Et voilà, on l'imagine, etc. Et quand on le vit, je parle d'elle, évidemment, cette œuvre et le mythe d'Orphée en général n'a pas la même, a plus la
tout
même.
À fait. Mais là, nous,
merci d'avoir proposé cette pièce.
Oui, mais nous, on va vous perdre pour une semaine parce qu'on va vous inviter à nous revenir la semaine prochaine. On a trop de choses à se raconter.
Grand plaisir.
Et avant de se quitter, on va se permettre de saluer notre technicien Valérian Fournier, qui est toujours à la console et grâce à qui vous pouvez nous entendre. Et on se quitte sur une belle pièce instrumentale, une pièce d'Éric Satie avec Clara Cormandi au piano. C'est la première gymnopédie. Et merci beaucoup pour ce premier entretien, Emmanuel. Et j'ai déjà très hâte à la semaine prochaine de pouvoir vous représenter à l'auditoire.
Eh bien, merci beaucoup. Moi aussi, Monsieur Dubois.